Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Regards croisés, je vous propose de confronter deux points de vue sur la réforme de l'enseignement médical en France. Échec en première année de médecine, difficulté à rebondir sur d'autres filières, besoin de créer des métiers intermédiaires entre celui de médecin et d'infirmière, former des médecins, un brin plus psychologue, voilà quelques éléments parmi d'autres que nous évoquerons au cours de cette émission. Depuis quelques années maintenant, tout le monde s'accorde à le dire, la société est en mutation, la formation et l'exercice de la médecine doivent suivre le mouvement. Mais que faire exactement? C'est là que des voix peuvent être discordantes. Pour nous éclairer de leur point de vue, deux invités sont avec nous dans le studio de Canal Académie. Bernard Charpentier, Guy Valencien, bonjour.
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 Merci. Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Bernard Charpentier, vous êtes chef de service de néphrologie au Centre hospitalier universitaire de Bicêtre, directeur de l'unité INSERM, greffe d'épithélium et régulation de l'activité lymphocytaire et ancien doyen de la faculté de médecine Paris-Sud, fonction que vous avez occupée pendant 20 ans et vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Guy Valencien, vous êtes urologue, professeur à l'Université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de chirurgie, correspondant de l'Académie nationale de médecine, secrétaire général du Conseil national de la chirurgie. Et j'ajoute que vous présidez la Convention on the Health Analysis and Management, convention qui a eu lieu d'ailleurs en septembre 2010 pour cette dernière fois. Chaque année, alors, on compte quelques 60 000 étudiants en première année de médecine et de pharmacie avec un taux d'échec impressionnant. 80% pour la médecine, 70% pour la pharmacie. Alors, est-ce que le taux d'échec va chuter avec la réforme de la première année de médecine qui est entrée en vigueur en 2010? Bernard Charpentier, pour commencer, peut-être d'ailleurs pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette réforme?
Alors, cette réforme est simplement d'essayer de faire une sélection sur quatre disciplines qui sont d'origine médicale ou pharmaceutique. Et ces quatre-là sont depuis tout le temps liés par des processus relativement communs d'apprentissage. L'idée, c'est d'avoir une fluidité entre ces quatre professions et surtout d'éviter que les reçus collés ne se retrouvent sans rien et donc d'avoir un équivalent de L1 santé. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours été très favorables à cette réforme qui a été engagée il y a quelques années, qui a maintenant donc son aboutissement, puisque pour la première fois en 2011, nous aurons ce qu'on appelle le PAES, la première année des études de santé, au point. Il faut aussi bien se dire que le problème à l'heure actuelle pour la médecine et les écoles de médecine, c'est que c'est un métier très particulier puisque d'abord, c'est un métier qui s'occupe du pus, du sang, des larmes et de la mort, donc ce n'est pas un métier ordinaire. Et que la deuxième chose qui me semble aussi importante, c'est qu'il faut avoir une certaine bagage intellectuel, mais aussi psychologique pour supporter, entre guillemets, ce métier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours regretté qu'il n'y a pas d'examen oral, ou du moins d'évaluation orale, tel que c'est fait dans les grands pays, comme par exemple l'Angleterre ou Israël, pour cette sélection. Et cette notion de sélection est très importante. Je pense que Guy Valencien aussi donnera son avis. Cette sélection dans l'entrée de cette profession particulière est très importante. Et d'autre part, un petit rappel sur les facultés de médecine, ce sont des écoles professionnelles. C'est-à-dire qu'on fait le métier qu'on enseigne et on enseigne le métier qu'on fait. Ce qui est rare à l'université, puisqu'un professeur de physique n'est pas conducteur de TGV le matin, alors qu'il utilise les courants de Foucault. Donc, nous sommes biappartenants et donc une école professionnelle, ce qui est très particulier à l'université française.
Alors, vous dites, nous étions tous favorables à cette réforme. Pourtant, elle semble quand même avoir mis un peu de temps à se faire, cette réforme. Guy Valencien, sur cette question, est-ce que vraiment il y avait un consensus ou au contraire, il y avait quand même des voix discordantes?
Non, mais il y a toujours des voix discordantes. Vous savez, une réforme, ça fait toujours peur. Alors, il est logique qu'il y ait un certain nombre de réactionnaires qui brandissent une vision dramatique de ce qui se passerait. La vraie question en France, c'est que l'université accepte tout le monde, ce qui devient, à mon avis, impossible. Je pense que les études universitaires coûtent cher. C'est l'État qui les paye. Quand vous êtes pour un étudiant en médecine à 250 € de l'inscription par an et que vous savez que ce sont des milliers d'euros qui sont dépensés, il faut peut-être se poser la question de savoir si, globalement, chaque jeune citoyen français peut faire les études qu'il veut parce qu'il a passé son bac et s'inscrire où il le veut, sans aucune préparation, et je rejoins Bernard Charpentier sur le sujet, ou si véritablement les universités doivent sélectionner. Je suis pour la sélection à l'université. Je suis désolé de le dire, quand on voit les masses d'étudiants en sociologie ou en lettres et qui ensuite aboutissent à des échecs de près de 60-70%, ce n'est plus acceptable. En médecine, comme l'a très bien dit Bernard Charpentier, le métier étant particulier, il faut donc sélectionner les jeunes sur la base de ce métier. Et c'est vrai qu'il faut un oral. Les étudiants n'en veulent pas parce qu'ils vous nous disent « on va revenir au mandarinat, on va sélectionner les fils à papa ». Non, il faut un oral. C'est un métier d'expression, c'est un métier de communication avant tout. Il faut aussi effectivement analyser le profil psychologique. Tout le monde n'est pas fait pour approcher des malades qui vont parfois mourir. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des chercheurs qui sont merveilleux, qui peuvent ne pas être médecins. Donc on a toute une réflexion à mener et je pense qu'il eût été préférable, plutôt que de commencer par une première année dont on verra que au bout de 6 mois, on rediscute effectivement l'orientation des gamins, il eût été préférable de créer des préparations santé dans les lycées pour apprendre aux étudiants un petit peu, leur dire un petit peu ce qui risque de se passer et déjà les voir s'orienter plus ou moins vers ce type de métier. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus facile à faire. Et je pense que les 4000 professeurs des universités praticiens hospitaliers que nous sommes en France auraient pu, dans un certain nombre de lycées, aller donner quelques heures par an pour expliquer le métier, ce qui aurait changé les choses.
Alors, pour aller dans ce sens, Bernard Charpentier, vous expliquez, avant qu'on commence cette émission, qu'actuellement, nous sommes dans une phase de sélection, formation, orientation. Or, il faudrait faire les choses à l'inverse. Alors, est-ce que vous pourriez l'expliquer un peu plus à nos auditeurs ?
Si on prend le système anglo-saxon que je connais bien, ainsi que Guy Vélancien, c'est un corpus qui se fait en trois temps. Il y a formation, puis après la formation, il y a une orientation et enfin une sélection. Or, les Français, depuis très longtemps, probablement à la fin de la royauté, surtout sous Napoléon, ont été uniquement pour la sélection. Une sélection qui se fait dans le concours des classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple, et dans laquelle on oublie la notion de formation. L'essentiel, c'est de passer l'examen et de le réussir. Or, en médecine, on ne demande pas de passer l'examen et de le réussir, on demande simplement à apprendre un corpus de connaissances qui va servir à soigner, ce qui est extrêmement compliqué. D'où, pour moi, le fait, et je rejoins Guy Vélancien, sur la chose fondamentale qui n'est pas faite en France, c'est l'orientation à la fin des études secondaires. Il y a des conseils d'orientation, mais l'orientation n'est pas faite. Et beaucoup de mes collègues, et moi en particulier, nous avions des rendez-vous dans les lycées en fin de terminale. Beaucoup de lycéens découvraient le métier de médecin, probablement étaient orthogonaux à ce qu'ils pensaient, mais que l'orientation n'a pas été faite. Ils imaginaient un métier tout à fait autre. Donc, en fait, il faut absolument qu'en fin de secondaire, il y ait une orientation bien faite et qu'on arrête de dire « tu es moyen en physique, moyen en chimie, moyen en maths, fais médecine. T'es bon en chimie, t'es bon en maths, fais normal sup, fais une classe préparatoire. » C'est complètement aberrant. Et il faut absolument que très tôt, les enfants, les étudiants apprennent à être formés et ensuite sélectionnés. Je rappelle qu'aux États-Unis, la formation post-bac, parabac, c'est 2 ans de community college, puis 4 ans de college. Et enfin, on rentre dans le système, en fait, à la suite d'orientation et de sélection, pas l'inverse. Chez nous, toutes les choses sont faites à 20 ans. Vous êtes bon en maths, vous irez normal ou à polytechnique, votre vie sera faite. Donc à 20 ans, tout est fait. Vous n'êtes pas bon en maths, pas bon en physique, et bien à ce moment-là, tout reste à faire. C'est très injuste.
Donc pour résumer, en fait, on pourrait ouvrir la fac de médecine à ceux qui font un bac littéraire.
Alors, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune raison d'éliminer des très bons littéraires avec un bagage intellectuel, physique, etc., capables de faire ce métier. Et à l'heure actuelle, le mode de sélection les élimine. Sauf qu'il y a 20% de la note en sciences humaines et sociales. Mais enfin, la note est petite. Et c'est vrai que quand on regarde nos résultats du P2, les littéraires ne représentent même pas 1%. Donc ça ne représente rien du tout, rien du tout. Et donc il y a une grande injustice dans cette sélection. Je ne parle pas de formation, là. Parce que l'année de première année de médecine, ce PES, en fait, avant, était uniquement un problème de sélection pendant 2 ans, puisque 80% redoublaient. Donc c'était uniquement une sélection. C'est comment être au-dessus de la barre et pas en dessous de la barre.
Alors, avec cette réforme de première année où on a bien compris, on peut bifurquer vers 4 disciplines, hein, donc la médecine, la pharmacie, il y a quoi également,
l'endodontiste,
voilà,
et la maïeutique.
Et être sage-femme. Donc, c'est favoriser l'émergence d'une culture commune, hein, entre ces professionnels de santé. Mais est-ce que ce n'est pas disperser ces étudiants dont on a besoin pour faire des médecins et dont le numerus clausus augmente chaque année ? Guy Vélancien, sur cette question.
Je voulais juste revenir d'abord sur les études, sur le type de baccalauréat. Je suis, moi, le rescapé du système puisque j'ai fait un bac philo. Et à l'époque, c'était dans les années 65, il y avait une section pour les cancres dont j'étais au PCB physique, chimie, biologie, qui était la première année. Et il y avait la section des médiocres dont je faisais partie. Alors on avait un cursus, une formation sur les statistiques et les mathématiques et la physique assez légère par rapport aux autres. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Mais c'est vrai qu'il faut militer pour ouvrir le recrutement à toute forme de bac, que ce soit des bacs littéraires, voire des bacs techniques, un chirurgien, je suis désolé, peut très bien venir d'un bac technique. Ce qu'il faut, c'est une élite, j'en suis d'accord, mais quel que soit le type de baccalauréat passé. Il faut bien voir que les études de médecine, quand vous avez 50 000 gamins qui se présentent, ce sont les pires quand vous regardez. Le concours est extrêmement difficile, puisque vous allez en avoir un tout petit pourcent, quelques pourcents qui vont gagner, en primo-accédant, pas ceux qui redoublent. Hein. Pour première année, c'est du 7 ou 8% pour la première année. Et ensuite, vous les repassez 4 ans après ou 5 ans après un concours aussi difficile qui va vous classer. Il faut être quasiment, je dirais, c'est une vocation incroyable pour oser se lancer dans des études pareilles. Et les gamins sont de niveau, nos externes sont souvent mention très bien et bien, S. Et le assez bien, on le regarde tout juste. Le passable, il n'a pas le droit de rentrer, il ne rentre pas. Donc, il y a une hyper-sélection par les sciences dures, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Sélectionné par les sciences dures. Et on oublie complètement, je rejoins ce que disait Bernard Charpentier, toute la partie humaniste, historique, la communication, on n'apprend rien de cela.
Venons-en à la question du numerus clausus. Oui, est-ce que la question du numerus clausus est-elle encore valable? Puisque si à l'issue de la première année, on peut bifurquer vers des disciplines différentes, est-ce que la question du numerus clausus est encore pertinente?
Mais cette question est absurde tant qu'on n'a pas redéfini le rôle et la place du médecin dans la société. Or, ce rôle est en train de changer considérablement. Le médecin n'est plus l'homme à tout faire ou la femme à tout faire. Il va donner une grande partie de ce qu'il fait, sera pratiqué par d'autres acteurs dont on parlera, non pas en termes de délégation, car ces acteurs seront responsables de leurs actes et non pas « je te délègue et tu fais pour moi ». Donc, globalement, tant qu'on ne saura pas ce qu'est un médecin dans la société du XXIe siècle, c'est même pas la peine de parler de chiffres. Et personne ne se pose cette question. Si vous regardez la valeur ajoutée du médecin, elle est très petite. Dans un monde normatisé, où les autorités sanitaires, où les associations savantes vous donnent des guides de bonnes pratiques, des normes à respecter, la plupart des actes des métiers médicaux peuvent être faits par d'autres types de personnel. Le rôle du médecin, il est très faible. Sa vraie valeur ajoutée, c'est de déroger à la règle, à ces règles-là, parce qu'il connaît le malade personnellement, familialement, culturellement, professionnellement et religieusement. Donc il sait que pour 5 à 10% de la population qu'il a en main, les normes ne correspondent pas. Et c'est à lui, c'est pour ça qu'il prête le serment d'Hippocrate, c'est pour ça qu'il a la confiance du malade, c'est de lui dire « pour vous, je sors des règles ». C'est sa seule valeur ajoutée. Tout le reste peut être fait par des personnels alternes.
Donc vous voulez dire qu'en fait, on aura besoin de moins de médecins, mais de plus de personnels intermédiaires?
Bien sûr.
Bernard Charpentier, sur cette question, est-ce que vous partagez l'avis de Guy Valencien?
Pas tout à fait, parce que d'abord, je vais citer une phrase assez amusante, c'est « la médecine a changé la société a changé la médecine, ayons le courage de changer tout le temps de médecine ». Donc c'est par définition quelque chose qui doit être en permanence en évolution, et c'est très compliqué parce que, en définitive, on double nos connaissances en médecine tous les 12 ans. En exemple, en mathématiques, on donne la médaille Fields en mathématiques à la démonstration d'un théorème de Poincaré 1902, donc c'est lent. En physique, on est au bout des quarks, donc on est au bout d'un concept. En médecine, en 1945, on traitait la pneumonie encore avec des ventouses scarifiées, des sangsues. Donc vous imaginez les progrès qu'on a faits. Et on est au début de la révolution copernicienne, à mon sens, par le génome, par un tas de choses, de la connaissance médicale. Donc je crois que le métier de médecin est en train de changer, change tout le temps, va complètement changer. Et l'édition numerus clausus ne doit pas être sur une règle stricte, parce que les règles comptables des années 92, 3600 étudiants en médecine, on savait qu'on est dans le mur. Mais à l'époque, on pensait que tout médecin faisait pour, en francs, 1,5 million de prescriptions. Donc quand vous en enviez 3 000, ça faisait 3 000 fois 1 million en moins tous les ans pendant 40 ans. C'était une vision qu'avaient adoptée à l'époque des syndicats irresponsables, un certain nombre de médecins et puis un certain nombre d'apparatchiks qui nous ont emmenés dans le mur. Et maintenant, on a bien vu les dégâts que ça a fait. Donc je crois que cette redéfinition du rôle social du médecin, son implantation et surtout de façon homogène dans le territoire, parce que vous avez trop de médecins à Cannes, mais vous n'avez pas assez de médecins à Hirson, parce que personne ne veut aller à Hirson dans les champs de betteraves, tout le monde veut aller à Cannes au soleil. C'est un des grands problèmes. Et le choix, à l'heure actuelle, de l'examen classé national, et je pense que Guy Valencien donnera son avis dessus, à l'heure actuelle, c'est un choix héliotrope. C'est-à-dire qu'on choisit de façon préférentielle tout ce qui est au bord de la mer, tout ce qui peut avoir un peu de soleil. Et on ne choisit pas Amiens, on ne choisit pas Caen. Et là, pour le moment, on n'a que des incitations positives à s'installer, mais il y a des déserts médicaux en France, on les connaît bien. Le problème, c'est, et il y a eu des efforts louables de la part des ministères en ce sens-là, d'essayer de re-répartir au mieux les médecins sur le territoire, ce qui, jusqu'à maintenant, était totalement, quand on disait cela, on hérissait tout le monde.
Mais alors la réponse que peut vous apporter votre confrère en face, c'est la réponse de la télémédecine, par exemple.
Non, je rejoins tout à fait ce que dit Bernard Charpentier quand même. Il y a une inégalité de répartition sur le territoire par rapport à la population, aux populations. Les causes ont été indiquées et c'est vrai qu'on est amené à sortir de ce qui faisait un peu la clé pour la médecine libérale, à savoir la liberté de prescription, la liberté d'installation. Ce n'est plus possible. Il n'y aura plus de liberté d'installation. Les pharmaciens n'ont pas la liberté d'installation. Les notaires non plus. Ça ne les empêche pas de vivre et de faire leur métier. Ils ont des demandes et il peut y avoir des dérogations, mais ils demandent. Le médecin ne peut plus s'installer où il le veut. Ce sera fini demain. Et je souhaite que ça soit le plus tôt possible. Alors, on peut comment faire ? On peut très bien avoir peut-être des péréquations en fonction des régions. Bref, il y a tout un système à mettre en place, mais laisser dans un monde asymétrique, puisque comme il y a remboursement, même s'il n'est pas total, nous ne sommes pas sur un marché normal. Dans un marché normal, plus il y a de médecins dans un endroit, moins ils vont vivre. Or, en fait, comme la population ne paye qu'une part faible, même si elle dit qu'elle en paye beaucoup aujourd'hui par les cotisations, le marché est asymétrique. On peut augmenter le nombre de médecins et il y aura toujours une consommation qui augmentera. Il faut atteindre un véritable niveau de sursaturation et non pas de saturation pour que les médecins ne s'installent plus dans un endroit.
Alors, on marque une pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Il fut le familier de Brancusi, Bourdelle ou encore Mayol. La vie d'Antoine Poncet s'apparente à un roman nuancé, balancé entre la Suisse et la France. Découvrez cet artiste au grand talent qui est aussi en 2009 le président de l'Académie des Beaux-Arts. Plongé dans son univers et son atelier de la rue Saint-Simon à Paris. 67 ans de travaux, des rêves et toujours de la joie. Écoutez l'émission Antoine Poncet, un sculpteur au royaume de l'art.
Suite de notre émission Regard croisé en compagnie de Bernard Charpentier et de Guy Valencien, j'aimerais pour cette deuxième partie vous faire réagir sur une phrase que je vais vous citer de Francis Brunel, qui est chef de service et responsable du pôle imagerie Hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Il dit ceci : les universités ne sont pas armées pour apprendre aux étudiants un savoir-faire, ce qui pose d'emblée la question de leur légitimité unique dans le domaine de la formation initiale. Alors, est-ce que la fac est armée pour former des médecins ?
Alors, la question est excellente, sauf que les facultés de médecine ont été dérogataires pendant très longtemps. Même à l'heure actuelle, elles sont dérogataires, j'allais dire heureusement. Pourquoi ? Ce sont des écoles de médecine. D'ailleurs, à l'Odéon, ce n'est pas la rue de la faculté de médecine, c'est les rues de l'école de médecine, c'est-à-dire le compagnonnage. Et effectivement, autant l'université française a longtemps pas existé, il ne faut pas oublier que Napoléon a créé des écoles parce que l'université a été un échec, un énorme échec. Elle s'était embarquée dans l'absence de recherche, dans un corporatisme échappant aux frais de justice et aux droits de justice. Donc déjà, le Collège de France a été fait par François Ier pour simplement échapper à la pesanteur de cette université qui était liée en fait, grosso modo, à la théologie. Donc, les écoles napoléoniennes étaient là pour reprendre simplement, quand un canon se met à bien tirer, il faut bien savoir où l'obus arrive, polytechnique. Les mines s'effondraient, l'école des mines. Les routes marchaient pas bien, on fait les ponts et chaussées. Donc, l'université avait totalement disparu. Et c'est en fait la loi de 84, la loi Savary, qui a ramené l'université. Mais elle est restée effectivement longtemps très archaïque, d'ailleurs tout le monde s'en plaignait beaucoup, alors qu'elle attirait le plus grand nombre de gens. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a 2 228 000 étudiants et il y en a 1 500 000 à l'université. Et donc, il ne faut pas que l'université en plus soit un parking à chômeurs pour certains endroits. Donc, elle était peu professionnalisante. Et dans tout cela, il y avait des écoles, mais qui avaient le nom d'université, c'est-à-dire en fait les UFR de médecine, les écoles de médecine. Je répète qu'elles étaient des écoles professionnelles, très anormales, puisqu'on enseignait le métier qu'on fait et on fait le métier qu'on enseigne. Ce qui n'est pas vrai pour le droit canon, le sanskrit et l'espéranto. Des fois, ce sont des professeurs d'espéranto, de sanskrit, de droit canon qui sont présidents de l'université. Donc, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est qu'une école professionnelle.
Guy Valencien, sur cette question, puisque vous présidez ce congrès dans lequel Francis Brunel a pris la parole.
Oui, c'était très discuté à la convention CHAM 2010, ou à une table ronde que modérait Francis Brunel, où il y avait notamment Julian Stahl, qui est le doyen de la Harvard School of Medicine, école de médecine, et pas d'université. Et puis Bernard Ramanantsoa, qui est le directeur d'HEC, l'école des hautes études commerciales. Notamment. Et c'est vrai que l'université crée le savoir, le diffuse parfois, pas toujours bien, mais ne sait pas apprendre un savoir-faire. Ce n'est pas son rôle. Et même si on a des écoles de médecine, on voit aujourd'hui que par le caractère, je dirais, hospitalo-centré et CHU, c'est-à-dire d'hyperspécialité, vous avez en gros la moitié des étudiants qui ne sont pas formés au métier qu'ils vont faire lorsqu'ils vont arriver sur le terrain, c'est-à-dire les généralistes. Car à l'hôpital, vous ne voyez plus un ulcère d'estomac simple, vous ne voyez plus une pathologie simple, tout est compliqué. Et quand vous vous retrouvez dans la pratique quotidienne de votre cabinet, ce n'est plus du tout la même chose. Donc il y a un décalage total en ce qui concerne la formation entre la pratique de demain et ce qu'apprennent les étudiants, qui est très difficile, car comment voulez-vous être généraliste avec la somme de connaissances? Et c'est 250 000 articles par an, ça vous fait 80 articles par jour. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut aboutir à une formation beaucoup plus synthétique. Ce n'est pas revenir à des officiers de santé et dire on va lui apprendre un petit peu de tout. Mais il y a une révolution à faire dans le formatage de l'enseignement, dans la mesure où vous avez un acteur qui s'est introduit dans toutes nos maisons et dans toute notre connaissance, c'est quand même le disque dur. Et que le disque dur nous permet de ne plus apprendre. Hein ? On peut aller chercher l'information. Ce qu'il nous faut apprendre, c'est à juger. Et ça, on ne le fait pas bien. Dans aucune université, on apprend vraiment à juger. On avale de la connaissance pure, alors qu'on peut la déléguer, on l'a dans la boîte, dans l'ordinateur, et on n'apprend pas à juger. Deuxième chose, il nous manque dans la formation toute la partie dont on parlait avec Bernard Charpentier, c'est-à-dire, au-delà des sciences dures, la communication. Il n'est pas pensable qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de media training pour des étudiants en médecine. Moi, je leur fais passer, mes externes passent l'examen de leur stage, je joue le malade. Ils sont le médecin en face de moi et j'ai une caméra qui est derrière mon dos et je les filme. C'est absolument saisissant de voir comment ils réagissent quand ils vous annoncent un cancer, ils regardent leurs pieds et puis ils vont vous dire, vous savez, cher monsieur, on va vous faire une petite biopsie parce qu'on va peut-être chercher un petit cancer. Ils vous infantilisent immédiatement. Les externes ne savent pas s'exprimer face à un malade. Il faut leur apprendre, il y a des trucs. Et je souhaite que de plus en plus, on développe cette formation de la communication pour des étudiants qui ne sont pas rodés à cela. On n'a quasiment pas de formation sur l'histoire d'où nous venons pour savoir où nous sommes et où nous irons. C'est fait à la va-vite, comme ça, une ou deux heures d'histoire de la médecine, alors que c'est absolument passionnant de voir d'où viennent les concepts et comment nous nous sommes développés. Bernard l'a rappelé encore récemment. Là. Et puis, nous ne savons pas du tout travailler en groupe. Il n'y a aucune formation du travail en groupe. Or, les étudiants vont travailler de plus en plus ensemble. Ça se gère, il y a toujours un gérant dans un groupe. Il y a celui qui est au bout seul, qui est obligé de prendre plus de responsabilités que les autres, peut-être temporairement. Donc tout ça s'apprend, ça ne s'invente pas. Donc il manque en gros la moitié de la formation pour avoir des médecins demain qui soient efficaces, qui soient bons médecins au sens de la technique et médecins bons au sens de la relation. Il faut un bon médecin bon, c'est ça. Le rêve d'une formation par les écoles de médecine.
Alors Bernard Charpentier, j'imagine que vous partagez cet avis, mais alors est-ce qu'il faut du coup allonger encore le nombre d'années d'études ?
Non, moi je pense que ce corpus à connaître étant tellement en expansion logarithmique que la première chose que les étudiants doivent apprendre, c'est apprendre à apprendre. C'est-à-dire apprendre à apprendre, ça s'apprend à apprendre. C'est-à-dire les techniques pour apprendre et effectivement aller chercher l'information. Moi, j'ai connu, comme Guy Valencien, le fait que pour passer dans l'internat, on connaissait par cœur trois livres qui s'appelaient L'Hôte et Fossard, l'anatomie, par cœur, sans aucun schéma. Et je suis encore capable de vous rappeler le plancher de la sous-maxillaire. Donc, c'était effectivement une formation scolastique, entre guillemets. Maintenant, les moyens modernes ont fait exploser la chose. Alors, je crois qu'il y a un autre élément important, c'est revaloriser les stages de clinique le matin. Car longtemps, ces stages ont été abandonnés. Pourquoi ? Parce que là encore, pour préparer les concours, parce que la médecine, c'est le seul endroit où on fait un concours d'entrée et un concours de sortie classant. On classe quand même 5000 étudiants à chaque fois, tous les ans. Vous connaissez, vous, beaucoup de concours d'entrée, de concours de sortie, de reconcours après ? Donc on passait son temps, en fait, à ne pas aller à l'hôpital pour préparer les concours. Ça, c'était vrai. Et en fait, je plaide beaucoup pour que, premièrement, donc, les notes qui sont engrangées pendant 6 ans, on note pendant 6 ans, tous les quadrimestres, les étudiants. Si quelqu'un a des notes à la fin avec un algorithme important, c'est en médecine. Donc, premièrement, un, pour que ces notes soient prises en compte, y compris les notes de stage. Et d'ailleurs, les problèmes psychiatriques qu'on voit en médecine, puisqu'on ne peut pas les détecter à l'entrée, eh bien, pour les doyens, sont une véritable plaie. 6 ans après, tout d'un coup, vous avez un étudiant qui manifestement n'est pas apte à être médecin. Il a des choses épouvantables. Certains même ont battu des malades, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc le problème pour ces étudiants-là, c'est effectivement de voir qu'au cours des stages, il y a déjà eu des problèmes. Donc je suis moi pour que les stages le matin, pour les patrons qui sont là pour ça, le fassent. Et deuxièmement, je suis bien sûr pour des stages en médecine générale relativement tôt, tel que c'est fait dans la loi, mais de les faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants, quand ils sont dans le deuxième cycle, aient un contact université centrée, c'est-à-dire le CHU, mais aussi l'hôpital général. Et heureusement, on a des conventions avec les hôpitaux généraux. Ils vont à Longjumeau, etc. Ils voient un petit peu ça. Et surtout qu'ils aillent en cabinet de ville de médecine générale, qu'ils voient. Et certains feront un choix de médecine générale parce que c'est un mode de vie différent, mais tout aussi loisible que les autres, et qui ne sera pas un choix par défaut. Ça ne sera pas un choix de sélection à l'examen classé national, ça sera un choix volontaire, parce que le mode d'exercice leur plaira. Et je termine là, c'est que les moyens très modernes, effectivement, j'allais dire du disque dur, mais aussi de l'interface avec le robot ou avec la machine, qui permet un aide au diagnostic, qui permet de connaître la littérature en temps réel. Il suffit de taper un clic et vous allez sur des syndromes dont vous avez entendu parler. Ça, c'est un élément très important. Donc, cette espèce de lien entre les bases de connaissances, Harvard, c'est à l'heure actuelle 800 millions de pages de médecine qui sont sur le site. Donc, d'y aller et de trouver le bon endroit, etc., eh bien, ça, c'est seuls les moyens informatiques qui vous donnent ça. Donc, ce lien à l'heure actuelle, ce lien ancien qui était avant la lettre ou qui était les paroles, le coup de téléphone, à l'heure actuelle, c'est le clic avec la souris et s'adresser aux grandes bases de données. Je terminerai aussi par une autre chose qui est que la médecine avant, on terminait ça au bout de 6 ans, plus éventuellement 2 ans ou 3 ans de post-internat. C'est pas ça la médecine. La médecine, c'est le 4e cycle jusqu'à la fin de sa vie. On ne peut pas imaginer qu'un médecin jusqu'à sa retraite ne se forme pas tout le temps et en permanence. Et ça, c'est capital parce qu'avant, ce n'était pas dans les mœurs françaises. C'est dans les mœurs américaines. Vous ne pouvez pas exercer aux États-Unis si vous n'avez pas une réaccréditation tous les 5 ans. En France, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Et il faut absolument que les médecins imaginent bien que rien n'est terminé quand on a terminé son externat, son clinica. Tout commence, tout commence. Et même la découverte des changements de conception, de découverte, etc., amenés par, effectivement, ces milliers de revues toutes les semaines, doivent être, effectivement, la base, entre guillemets, de la formation médicale. On peut l'appeler par différents noms, mais former de façon continuelle ces médecins jusqu'à leur retraite. On n'a plus le droit, à l'heure actuelle, d'avoir des médecins qui n'ont pas cette formation jusqu'à l'âge de la retraite. Et même après, parce qu'apprendre, c'est passionnant.
Alors, on va reparler dans quelques instants de cette formation continue, je crois qu'on peut donner le terme.
Développement personnel.
Développement personnel, et on va en parler dans quelques instants. On sent bien qu'il y a un consensus autour de cette table, entre vous deux, donc cette nécessité d'introduire des oraux, de faire des stages, d'introduire de la psychologie, de l'économie aussi. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi, puisqu'il y a un consensus autour de cette table, dites-moi pourquoi ça ne
ça se fait pas parce, qu'il y a parce qu'on n'a pas compris que le monde évoluait. Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment aucune donnée économique. Les étudiants ne savent pas comment est organisé le système sanitaire français.
Donc vous voulez dire que c'est les étudiants qui posent problème.
Ils ne savent pas qu'il y a un président de la République, qu'il y a un conseiller social qui, avec lui-même, un conseiller à la santé, qu'un premier ministre a la même chose, qu'ensuite le ministre de la Santé a la même chose, qu'il y a les caisses d'assurance maladie, qu'il y a toutes les agences. Ils ne connaissent rien de tout cela. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent même pas ce qu'est un chiffre d'affaires quand on est libéral. Ils ne savent pas du tout qu'il y a une grosse partie de ce chiffre d'affaires qui va être distribué pour leur retraite, pour leur assurance, en responsabilité civile. Ils sont totalement perdus. Alors, de plus en plus, on professionnalise quand même. Je vois à Paris 5, on a organisé Être chirurgien aujourd'hui et demain. Et on fait venir des chirurgiens qui expliquent pourquoi ils ont fait ce métier. On met aussi un avocat, un chirurgien qui a eu un procès pour expliquer. On met des femmes chirurgiens qui expliquent pourquoi elles ont fait ce métier et comment elles peuvent le faire. Et on explique ce qu'est l'organisation sur le territoire de la chirurgie et toutes les instances qui y concourent. Et ça a un succès considérable. C'est un diplôme optionnel. Les étudiants se précipitent. On est obligé de fermer les portes tant ils sont nombreux à vouloir venir parce qu'on est obligé de faire des enseignements en groupe relativement restreint. C'est la première chose. Deuxièmement, les études sont beaucoup trop longues. Je suis de ceux qui considèrent qu'avec les moyens modernes, notamment tout ce dont parlait Bernard Charpentier, notamment tous les moyens de simulation, on peut apprendre beaucoup plus vite en répétant des gestes de façon beaucoup plus fréquente. Et longtemps, la médecine s'est dite, nous avons des études longues, donc ça doit justifier le niveau de nos honoraires. C'est complètement faux. Quand vous regardez les plus grandes écoles, elles durent 4 ans, vous avez les prépas de 2 ans, en 6 ans, ça y est, quelqu'un est formé et avec des niveaux de revenus parfois bien supérieurs. Nous perdons, la deuxième année ne sert à rien. Les étudiants sont épuisés après la première, ils ne font plus rien. La troisième année, ça se discute. L'année de l'internat est quasiment perdue parce qu'ils ne font que bachoter, comme le disait Bernard Charpentier. Même certains doyens leur disent, n'allez pas dans les stages, c'est pas la peine. On veut que vous soyez bon pour le concours, donc on vous donne le droit de ne pas aller en stage. Voilà où on en est, sous la pression absurde de ce concours qui juge les étudiants au dixième de point. Ça n'a aucun sens, je veux dire. On est dans la folie du monde et je souhaite, comme tu le disais, cher Bernard, que les étudiants soient évalués tout au long de leur cursus. Seulement, ils ne veulent pas. Ils ne le veulent pas. Ils préfèrent, je dirais presque, la roulette d'un concours où on peut très bien avoir été psychologiquement traumatisé par une rupture, un décès ou quoi que ce soit d'autre, et le rater. Alors que quand on est contrôlé sur tout au long de son cursus, on a quand même plus de chances de s'en sortir. Mais ils ne veulent pas, ils préfèrent la roulette.
Bernard Charpentier, vous qui connaissez aussi bien les étudiants.
Écoutez, j'ai essayé pendant des années, avec beaucoup de ministres et beaucoup de gens à essayer de les faire changer. Effectivement, les étudiants étaient archaïques, ce qui prouve qu'on peut être jeune et archaïque, et comme nous, vieux et progressiste. Vous voyez donc que tout est inversé. Et en fait, leur terreur, c'était le mot de népotisme médical qui a sûrement existé. Mais à l'heure actuelle, le grand népotisme, c'est dans la chanson française qu'il existe et pas dans le népotisme médical. La deuxième chose qui m'a semblé extrêmement important pour tenter de faire évoluer les choses, c'est de leur dire, bah, vous êtes en évaluation pendant de nombreuses années, pourquoi pas se servir de fac pour éviter cette espèce d'examen aberrant dans lequel on va avoir 4 000, 4 500 étudiants. En fin de deuxième cycle, on va classer au 150e de point 1 divisé par 150. Vous vous rendez compte, il suffit de se tromper d'une virgule, pan. Et donc, c'est une grande aberration. Et en fait, les étudiants ont peur, là encore, que les notes de fac soient du népotisme médical. Il y a des polytechniciens, il y a des normaliens, ils ont un euro, on ne parle pas de népotisme chez ces gens-là. Je ne vois pas le grand accrochage. Et ça, je pense que les syndicats médicaux et les syndicats d'étudiants devraient être beaucoup plus progressistes et ouverts. On n'est pas là pour ennuyer les étudiants, c'est eux qui vont nous remplacer. Donc on les aime, ces étudiants, puisque ça va être eux, nous, et nous, eux. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont toujours très frileux. On pense que... Ils pensent qu'on est là pour les coller, etc. Et en fait, ce sont des galériens qui aiment leur chaîne.
On a intérêt à bien les soigner, puisque ce sont eux qui vont nous soigner. On a intérêt à bien les former, puisqu'ils vont nous prendre en charge.
Mais en même temps, vous parlez, par exemple, de réduire le nombre d'années d'études. Oui. Les patients potentiels pourraient avoir peur en écoutant cette émission, en disant « mince, on veut toujours aller beaucoup plus vite, hein, on est dans une société où tout va vite ».
Non, on n'est pas dans la société de la vitesse. Là, on est dans une société de perte de vitesse. Et vraiment, on traîne en matière médicale. Je pense que, notamment dans mon métier, la chirurgie, on peut aller plus vite à condition que les jeunes soient formés dans des services où il y a du débit. Si effectivement, vous faites une intervention deux fois dans votre semestre dans un service qui a peu de débit, vous n'apprendrez pas. Si vous en faites 50 ou 100, vous allez apprendre en quelques mois. On l'a très bien vu, comment les jeunes peuvent monter sur la vague et apprendre très vite s'ils ont à répéter les gestes très régulièrement. Et là encore, la simulation, les systèmes de serious game, les systèmes de simulateurs vont nous aider à accélérer la formation et l'apprentissage des gestes.
Alors venons-en pour la fin de cette émission à un terme qui a changé depuis peu. On n'appelle plus formation continue, mais développement professionnel continu. Alors, puisque vous parliez, Bernard Charpentier, de cette nécessité pour les médecins de se former, quelle est la différence entre formation continue et développement professionnel continu ?
Je voulais juste revenir sur effectivement ce quatrième cycle, parce que quand on parle du temps des études médicales, on parlait avant du premier cycle, d'ailleurs qui prenait toujours un an de plus, puisque 80% des étudiants redoublent leur première année. Et on ne redouble pas sa Maths-Sup ou Hippocagne. Il n'y a qu'en médecine qu'on redoublait. Donc on perdait en fait 2 ans. Je vous rappelle qu'en Angleterre, qui n'est quand même pas manchot en matière de médecine, en Israël, où on n'est pas manchot en matière de médecine, on est sélectionné par les notes de seconde, première, terminale, un entretien psychologique, un jeu de rôle, on demande à un étudiant de faire le malade, et un entretien avec un jury. Et après, on est pris ou pas pris. Quand on est pris, on commence tout de suite, donc on gagne 2 ans, ce qui est déjà assez extraordinaire. La deuxième chose, c'est que ces cycles qui avant étaient basés sur physiologie, pathologie, puis ensuite apprentissage par le compagnonnage de l'internat, a tendance effectivement à avoir moins de césures aussi nettes que cela, puisque se profite derrière ce développement continu. Et effectivement, cette notion de quatrième cycle est capitale, puisqu'avant, quand on quittait la faculté, tout était fait. Et généralement, l'enseignement post-universitaire était assuré par les délégués médicaux, ce qui était une aberration, parce qu'ils font leur boulot. Mais ce n'était pas ça qu'apportait tout le corpus de connaissances, je vous répète, qui double tous les 12 ans. Donc, cette obligation de ce développement, entre guillemets, continu, me semble important parce que c'est plus large que de la médecine. Il doit y avoir, en fait, d'autres possibilités d'être enseigné. D'ailleurs, pas forcément, si vous voulez, sur de la science pure et dure, de façon peut-être beaucoup plus large. À l'heure actuelle, par exemple, les publications sont à 90% en anglais. Il faut que les médecins pratiquent l'anglais de façon courante. C'est obligatoire, simplement pour attraper la littérature. Alors, il n'y a pas encore, il y a eu un long débat avec des positions syndicales relativement dures, des problèmes ministériels avec cet FMC qui est devenu DPC. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que ça accrédite, accrédite pas? Est-ce qu'il y a des collèges, pas des collèges? Tout ça, c'est encore, si vous voulez, relativement pas encore bien mis dans ses bottes. Pourquoi? Parce que les gens ont un peu peur de cela. Et ça, c'est un peu idiot, parce que si vraiment il y a une révolution euclidienne à faire, c'est ce temps-là. Parce que ce temps-là, il se fait quoi? Entre 25 ans et 65 ans. Vous vous rendez compte? C'est un temps de 40 ans. Ce qui va gommer les 6 ans de premier, deuxième cycle, les 4 ans, entre guillemets, de troisième cycle. Donc moi, j'accorde énormément d'importance à cette formation professionnelle. On n'imagine pas qu'un pilote qui va conduire 600 passagers dans un jumbo tous les jours n'ait pas sa formation tous les 3-4 ans dans lequel il repasse des examens. Là, ce n'est pas 300 personnes que le médecin va avoir, c'est des milliers de personnes tous les mois dans son dos. Donc, ce que peut faire un pilote, un médecin doit le faire. Donc j'insiste beaucoup sur cette importance, à mon sens, dans tous les pays du monde, de ce quatrième cycle des études médicales, et dans lequel on me dit, mais on ne va pas à l'université parce que, pourquoi ? Parce qu'on a passé des examens, comme si c'était terrible d'avoir passé des examens, comme si on avait une blessure narcissique de l'enfance, qui à l'endroit où vous avez passé un examen, vous ne pouvez plus retourner parce que c'est terrible l'examen. Mais enfin, c'est fantastique l'université, c'est fantastique la faculté, c'est fantastique d'y revenir. Et aux États-Unis, le concept de la faculté, c'est de rester alumnus, alumni, toute sa vie. On a appartenu à l'université. En France, il n'y a pas d'alumni des facultés de médecine. Ça n'existe pas. Donc pour moi, la question que vous posez est capitalissime. Il ne faut pas se planter dedans. C'est très compliqué. Le dossier, par exemple, de chacun des malades a été très compliqué. Vous savez qu'on y a vu plein de fois. Alors qu'on sait que maintenant, moi et Guy Valencien, on sait très bien qu'une clé USB, on fait ce qu'on veut dedans. Donc ce n'était pas si compliqué que ça. Et donc, il y a probablement pour ce quatrième cycle un chantier fantastique d'éducation à faire chez des gens qui ont un corpus de base, parce qu'on ne peut pas non plus faire ça sur des gens qui ne connaissent pas. Il faut un corpus de base. Ce corpus de base, c'est 6 ans premier cycle et deuxième cycle. On peut peut-être le raccourcir ou l'augmenter. 4 ou 5 ans de troisième cycle. Mais ce n'est plus du vrai cycle. Les cycles, ce n'est plus des cycles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un continuum. Moi, je ne veux plus le mot de cycle, je veux continuum. Et c'est des grades probablement éducationnels qui doivent se faire.
Yves Valencien, cette frilosité, elle est toute française. Quel est le par rapport aux autres pays ?
Je ne sais pas. Ben, c'est amusant de voir. Pour en revenir juste avant sur la sélection des étudiants, au début, on a cité Israël, effectivement, et notamment l'Angleterre avec l'oral, le profil psychologique, les jeux de rôle. Et il y a un autre pays qui a fait tout autrement, lui, la Hollande, tirage au sort, en disant après tout, c'est très compliqué, ils sont très nombreux à vouloir se présenter, on tire au sort. Et la France est entre les deux. Elle ne sait pas choisir, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Ou on va carrément vers une sélection avec les outils de la sélection, ou alors on dit on va au sort, nous on ne fait ni l'un ni l'autre. Pour en venir à la formation continue, on est très très clairement, on a affaire là aux corporatismes les plus rétrogrades qui ne cessent de vouloir freiner la mise en route de l'évaluation vraie des hommes et des structures. C'est tout, il faut dire ce que c'est. Alors, on parlait de formation continue, maintenant on parle de développement professionnel continu. C'est de l'enfumade pour remettre encore des textes et puis faire durer, réunir les syndicats, les instances et autres, enfin... Bref, on fait exprès de noyer le poisson pour ne pas aller à la vraie question, c'est à juste titre, on ne peut pas avoir un diplôme d'État qui vous permette à vie d'exercer sans être jamais remis en cause dans vos compétences et dans votre pratique. Il faudrait des, j'avais proposé à Claude Allègre à l'époque, je lui ai dit, il faudrait un diplôme d'État biodégradable. Au bout de 5 ans, on ne pourrait plus le lire. Mais en fin de compte, pourquoi un diplôme d'État ? Quand on voit ce que la thèse des étudiants en médecine n'a rien à voir avec la pratique, ce n'est pas du tout adapté. Regardez les études de droit, vous passez le CAPA pendant 18 mois, les gamins vont... apprendre à plaider pour avoir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il n'y a pas de certificat d'aptitude à la profession de médecin. On passe une thèse d'État, qui est en général faite de quelques pages, soumise, je dirais, à la volonté du chef de service qui a besoin qu'on l'aide pour un petit détail. Mais ça n'a rien à voir avec la pratique. Je suis assez catastrophé par à la fois la façon dont effectivement les étudiants arrivent sur le marché avec ce diplôme et ensuite, globalement, peuvent vivre. Et on en connaît. Moi, je connais des chirurgiens pour avoir fait pas mal le tour de France d'un certain nombre d'hôpitaux. On voit des chirurgiens qui ont encore les pratiques d'il y a 40 ans. Certaines d'entre elles sont bonnes, d'autres sont vraiment obsolètes. Il faut donc en permanence se reformer. Là encore, les outils nouveaux que l'on met sur le marché aujourd'hui, les simulateurs, ce qu'on appelle les serious games qui permettent de vous créer des situations d'urgence, pas d'urgence, de danger, de gravité. Tout cela doit faire en sorte qu'en permanence, les anciens doivent venir se reformer dans les lieux où les jeunes se forment, parce que c'est ça qui créera aussi la cohésion, je dirais, du corps sanitaire. Et il est bon que des anciens viennent se former en même temps que les étudiants. C'est un de mes souhaits les plus chers. Et à l'école européenne de chirurgie que nous avons à Paris 5, c'est ce que nous faisons. On met de plus en plus ensemble des jeunes et des plus anciens. Les uns apprenant, ayant déjà l'expérience, les autres ayant l'énergie et la fougue d'inventer. Et ça crée tout à fait un tissu très particulier.
Bernard Charpentier.
Non, juste une petite remarque, parce que je voudrais rectifier. Guy Valencien parle d'une thèse d'État. C'est en fait une thèse d'exercice, hein, la fin de... Et d'autre part, beaucoup plus important que cette thèse, c'est en fait l'évaluation du coordonnateur de spécialité. C'est lui qui, est dans toute l'interrégion, a les notes d'évaluation des stages que fait le troisième cycle dans les différents services. Et en fait, à la fin, c'est lui qui propose au doyen le diplôme. En fait, la thèse d'exercice, c'est un exercice de style dans lequel, en fait, on fait un peu de littérature. Mais le véritable endroit gordien du nœud, c'est effectivement le coordonnateur régional qui... a les notes d'évaluation de la part des chefs de service et qui ont diplômé les gens. Et En médecine, on conduit avec un permis, une carte grise. Le permis de conduire, c'est l'université qui est diplômante par sa faculté de médecine. La carte grise, c'est le conseil de l'ordre. Donc, vous avez besoin des deux documents pour conduire. Et je reviens sur l'évaluation. Effectivement, les Français adorent évaluer, mais n'aiment pas être évalués. C'est toujours la même chose. C'est, j'évalue, mais je ne veux pas être évalué. Et en fait, la notion d'évaluation après le quatrième cycle est difficile. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, on va revenir à une phrase que mon professeur citait souvent, qui est de dire « Lorsque nous étions ignares, nous étions sacrés. Lorsque nous sommes devenus savants, mais inefficaces, on était respectés. Maintenant qu'on est efficace, on est suspecté. Qu'en est-il ? » C'est une très belle phrase.
Mais c'est très vrai. En chirurgie, du temps où vous aviez un malade sur trois qui mourait, pendant ou dans les suites immédiates de l'opération, nous étions des dieux. À la limite, je vais être très trivial, il faut casser des malades pour être connu en médecine. Parce que ceux que vous sauvez vous baisent les mains. Mais quand vous faites très bien, quand votre efficacité s'accroît, votre efficience même, hein, efficacité à son coup, et qu'on vient vous faire un procès pour un détail infime, vous tombez des nues. J'ai vu un procès pour une petite cicatrice que l'on appelle kéloïde, c'est-à-dire juste un petit bourrelet, fait par une greffée du rein. Vous mesurez la folie de cette personne qui est sauvée.
Vous prenez des cas particuliers.
Mais c'est ça, mais c'est ce que dit Bernard Charpentier. Plus on est efficace, moins on est reconnu.
C'est l'arrivée qu'on ne souhaite pas d'un quatrième partenaire ou d'un troisième partenaire dans un dialogue singulier médecin malade qui est le juge et l'avocat. Si une société, on la connaît cette société, la société nord-américaine est déjà avec le troisième partenaire qui est l'avocat. Au moment où tout d'un coup ce dialogue singulier qui date depuis Hippocrate, hein, très ancien, tout d'un coup s'introduit l'avocat puis le juge, à ce moment-là, le système va complètement déraper. Et là, on perdra son temps à ne pas traiter les maths puisqu'on essaiera de faire le minimum pour ne pas être condamné. Donc moi, j'ai très peur de cela. Et le seul moyen d'éviter, bien que j'aime beaucoup les avocats et les juges, ce n'est pas la question, mais d'éviter le plus longtemps possible qu'ils s'y intègrent, c'est effectivement qu'on soit performant, efficace et qu'on ne fasse pas de bêtises. C'est ça le problème. Donc on revient au mode de sélection, on revient à tout cela et on revient à cette formation qui va durer jusqu'à 65 ans. C'est le seul moyen d'éviter de faire les bêtises.
Donc c'est aussi une image aussi à changer pour le grand public, cette image du médecin a changé.
Mais attendez, oui et non. Il y a encore une très grande confiance. C'est un métier vraiment où il y a une grande confiance parce qu'il y a quand même une écoute, même si les consultations c'est rapide. Mais j'en reviens un petit peu à l'évaluation. En France, évaluer une personne, c'est aller à la sanction. Et c'est vrai pour les pays latins. Dans les pays anglo-saxons, évaluer une personne, c'est aller à la promotion. Je peux faire mieux. Et parce que je serai mieux honoré aussi, si je peux faire mieux, il y a un relais. Et chez nous, c'est non, surtout pas, surtout ne rien montrer. Avec en plus le risque, effectivement, qui était longtemps, et il faut le reconnaître, c'est vrai, le risque de passer sous les fouches du juridique. Et donc longtemps, notamment les chirurgiens que je suis, enfin les gens que nous sommes, ont été très hésitants à indiquer leurs incidents et leurs complications, parce que de peur d'avoir le procès. Quand vous avez un accident d'avion, vous n'avez jamais le nom du pilote. Jamais. Quand vous avez un chirurgien qui se trompe, vous l'avez en une de la presse. Voilà la différence.
Je reviens sur un mot, pour reprendre ce qu'a dit Guy Ancien, le mot anglais pour l'évaluation, c'est assessment. Assessment, ce n'est pas evaluation. Assessment, c'est effectivement un état à la fois d'un contrôle auto et extérieur qui permet plutôt une promotion. Alors que le mot évaluation à la française, c'est la sanction judo-créenne, c'est-à-dire en fait le coup de fouet et la rétrogradation. Donc c'est deux concepts différents. L'un, c'est assessment et l'autre, c'est évaluation, sanction. Alors que le terme anglais n'a pas le mot de sanction dedans.
Eh bien, c'est sur ce dernier mot que nous allons terminer notre émission. Je vous remercie d'être venu nous voir. Les auditeurs se feront leur propre opinion en écoutant vos propos. Voilà, donc j'invite nos auditeurs également à écouter une émission sur la formation médicale que nous avions réalisée en votre compagnie, Guy Valencien. Et puis, Bernard Charpentier, nous avions également sur notre site Canal Academy une séance sur l'autonomie des universités. Merci beaucoup. Et puis, alors, j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Ce sera avec joie.
Au revoir.